France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. La liberté d'avorter garantie aux femmes, ce sera dans la Constitution. Le Congrès a voté largement il y a quelques minutes. 780 pour, 72 contre. Sous les applaudissements, un moment de fierté, une liberté consacrée pour l'histoire. Nous serons à Versailles. Unanimité quasi totale. Place du Trocadéro aussi, où des centaines de personnes sont réunies. Et au-delà de l'IVG, vie de femme, vie de combat, c'est le thème du téléphone. Sonne 01 45 24 7000 juste après ce journal. L'actualité, c'est encore le parquet qui réclame un procès pour Pierre Palmade après l'accident qu'il a provoqué l'année dernière. Procès pour homicide involontaire car la femme enceinte a perdu son bébé. Un bulletin Trump possible demain dans le Colorado aux États-Unis. La Cour suprême casse la décision de l'État d'écarter l'ancien président de la primaire. On vous dira à quoi ressemble l'affiche officielle des Jeux Olympiques. J'espère que vous aimez jouer à Où est Charlie ? Et puis à Antibes, on ira visiter une école qui s'appelle désormais Guillaume Musso.
France Inter.
Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnelle, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Et c'est donc une présidente de l'Assemblée nationale, la première, Yaël Braun-Pivet, qui acte ce vote pour l'histoire. Il y a quelques minutes, solennelle, souriante, les parlementaires debout, longue ovation, on va y revenir. La France devient le premier pays du monde à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. La gauche et la majorité présidentielle ont accepté de faire cause commune. La droite s'est laissée convaincre. Le présent a répondu à l'histoire. On va retourner au Congrès de Versailles dans un instant, mais d'abord place du Trocadéro à Paris où vous vous trouvez. Bonsoir Manon Derdevé.
Bonsoir, bonsoir
où,
à tous.
Où le vote a été retransmis sur écran géant, où la Tour Eiffel s'illumine depuis quelques minutes pour célébrer ce vote. Il y a beaucoup de monde autour de vous, Manon.
Oui, à l'instant même où les résultats est annoncé, la foule exulte. Des centaines de personnes, même un millier de personnes sautent, se serrent dans les bras. Josiane, 85 ans, est sur la place du Trocadéro depuis 15 heures cet après-midi. Elle milite pour l'IVG depuis 50 ans. C'est le combat de ma vie, me dit-elle. Elle ne parvient pas à retenir ses larmes. Grâce à ce vote, les jeunes femmes ne vont pas avoir à se battre, ne vont pas avoir à avorter illégalement comme elle a dû le faire lorsqu'elle était jeune. Tout près d'elle, Sophie et ses amis danse, elles n'en reviennent pas. C'est une avancée historique pour les droits des femmes. Elles espèrent que désormais toutes les femmes dans tout le monde vont pouvoir à nouveau avoir accès à ce droit de manière unanime et pérenne. La Tour Eiffel, vous l'avez dit, elle est illuminée, elle scintille et la musique maintenant résonne. Les militantes ont tour à tour pris la parole. Elles espèrent maintenant que ce droit sera pérennisé et que tous les droits des femmes et l'accès à l'IVG sera garanti dans tous les territoires. On le sait, c'est parfois compliqué d'avoir accès à un rendez-vous pour l'IVG dans certains territoires. En tout cas, ici, c'est vraiment une atmosphère de fête sur la place du Trocadéro. Une fête qui, je pense, va encore se durer pendant toute la soirée.
Merci beaucoup, Manon Derdevé, avec Romain Lucquens, place du Trocadéro à Paris. Et l'on revient avec vous à Versailles. Bonsoir, Claire Flochel.
Bonsoir.
780 votes pour l'inscription de la liberté garantie aux femmes d'avorter dans la Constitution, 72 contre, sous les applaudissements donc tout à l'heure, y compris ceux de la présidente de l'Assemblée nationale. C'était pas tout à fait protocolaire d'ailleurs, Claire.
Oui, hein, ça y est, c'est fait. Hélène, le Congrès a adopté cette révision constitutionnelle à une très large majorité. Vous l'avez dit, 780 ont voté pour, seulement 72 ont voté contre. Une majorité des 3/5 des suffrages exprimés était requise pour approuver cette révision, la première hein, depuis 2008. La France devient ainsi le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. À l'annonce du résultat, standing ovation dans l'impressionnante salle du Congrès, cet immense hémicycle. On a vu tous les parlementaires, ou presque, debout applaudir. Et puis, en sortant, on a entendu retentir dans les couloirs du château de Versailles l'hymne des femmes. Cette chanson, créée en 1971 par des militantes féministes, devenue un emblème du mouvement de libération des femmes.
Et ce vote clair, il intervient aussi après des paroles très fortes que l'on a entendues un peu plus tôt dans l'après-midi.
Et oui, Hélène, une séquence en particulier a suscité l'émotion lors de la prise de parole du sénateur Olivier Maluret. Le président du groupe Les Indépendants du Sénat a raconté son expérience de médecin coopérant face aux femmes qui ne pouvaient avorter. Cet ancien président de Médecins Sans Frontières a expliqué qu'à l'âge de 25 ans, il était médecin-chef d'un petit hôpital dans un coin perdu d'un pays du Sud.
J'ai vu surgir dans mon bureau une jeune femme, 17, 18 ans peut-être, dont je me rappellerai toujours le visage. Les joues rondes d'une adolescente, toute rouge et inondée de larmes. Les bras maintenus par deux gendarmes. Le matin même, un voisin avait découvert le cadavre d'un nouveau-né, à peine enfoui dans le sol. Et l'on me demandait désormais d'examiner la suspecte pour savoir si elle venait ou non d'accoucher. J'étais pétrifié. Il s'agissait d'un infanticide, bien sûr, et la loi me commandait de m'exécuter. Mais je savais aussi parfaitement pourquoi cette jeune femme était là. Dans un pays comme tant d'autres, où fille-mère, c'était le mot de l'époque, signifiait bannissement social et déshonneur pour la famille, où l'avortement était interdit et sévèrement puni.
Je reverrai le visage de cette jeune femme dont la vie et celle de son bébé ont été anéanties lorsque j'irai voter. Voilà comment a conclu Claude Maluret. On pourra aussi retenir ces mots de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol qui a crié victoire et dit que les anti-IVG avaient perdu alors que des manifestations anti-IVG se sont déroulées toute la journée à proximité du château de Versailles.
Claire Flochel avec Benjamin Thuot en direct de Versailles. Le président Emmanuel Macron parle de fierté française, de message universel dans un message Twitter qu'il vient de publier. Et puis ce symbole, hein, la première cérémonie de scellement de l'histoire le 8 mars prochain pour consacrer cette inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, eh bien, sera ouverte au public. Journée symbolique, hein, 8 mars, journée des droits des femmes.
Et puis l'Église catholique a tout de même redit son opposition.
La conférence des évêques de France, quelques heures avant le vote, appelait à un temps de jeûne et à la prière contre ce qu'elle considère être une atteinte à la vie et au Vatican, à l'heure même où le Congrès se réunissait. Un communiqué a été publié allant dans le même sens. Bonsoir Bruno Duvic.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant en direct de Rome, tout progressiste qu'il soit dans certains domaines. Le pape, sur ce point, reste conservateur.
Eh oui, alors qu'il y a une minute à peine, une chaîne d'info continue italienne montrait les images de la fête au Trocadéro. Eh bien, en effet, du Vatican arrive un tout autre écho. Il ne peut y avoir de droit à supprimer une vie humaine. C'est la phrase clé du communiqué de l'Académie pontificale pour la vie, réponse directe au vote de ce jour à Paris. Le texte reprend aussi la prise de position de l'Église de France dont vous parliez. L'avortement ne peut être vu sous le seul angle du droit des femmes. Et lors de son voyage à Marseille en septembre, devant le président de la République, le pape avait évoqué le sujet.
Qui pense aux enfants à naître rejetés au nom d'un faux droit au progrès qui est au contraire une régression de l'individu ?
C'est vrai qu'avec cette notion de l'absolu de la vie, on touche à un point dur de la doctrine. Il n'y a pas de différence sur ce point entre François, Benoît XVI et Jean-Paul II. Alors sur le terrain, l'Église plaide pour le dialogue et une politique de soutien aux femmes qui ne veulent pas garder un enfant. Mais le mois dernier, sur les médias officiels du Vatican, sous le titre « La France vers une constitution contre la vie », un édito rappelait ces mots du pape François en 2021, « L'avortement est un meurtre ».
Bruno Duvic en direct de Rome. Si la France s'est engagée dans cette voie de consacrer le droit à l'avortement dans la Constitution, c'est en réaction à la volte-face historique de la Cour suprême américaine il y a un an et demi, laissant les États libres de revenir sur ce droit, preuve qu'il n'est jamais acquis. Une erreur tragique, avait dit Joe Biden à l'époque, et c'est aussi aujourd'hui un enjeu de campagne face aux républicains pro-life. Et Donald Trump sera-t-il d'ailleurs celui qui les représentera à la prochaine présidentielle? Il y a depuis aujourd'hui un obstacle de moins sur sa route. Bonsoir Sébastien Paour,
notre
correspondant en direct de Washington. La Cour suprême autorise l'ancien président à concourir dans le Colorado, Sébastien, contre l'avis de l'État qui pointait sa responsabilité dans l'assaut du Capitole.
Oui, c'est ça. Le nom Trump peut bien apparaître sur les bulletins de vote demain dans le Colorado. Les 9 juges de la Cour suprême ici à Washington annulent la décision de leurs confrères des Rocheuses et ils le font à l'unanimité. Alors, ils ne se prononcent pas sur le fait de savoir si Trump est un insurrectionniste ou pas, s'il a participé ou pas à une rébellion le 6 janvier. Les procès s'en chargeront. Ils affirment seulement que l'article 3 du 14e amendement de la Constitution, sur lequel s'appuyaient les juges de Denver, ne s'applique pas à Trump. Et ils rappellent que seul le Congrès peut retirer le nom d'un candidat du bulletin de vote, pas un État. C'est donc une décision de procédure seulement, mais c'est la plus importante de la Cour suprême concernant une élection présidentielle depuis celle qui a donné la victoire à Bush contre Gore, c'était en 2000. Trump parle d'ailleurs ce soir d'une grande victoire pour l'Amérique. Il reste éligible dans le Colorado, et cela enterre les procédures similaires en attente dans le Maine, dans l'Illinois, et ça lui laisse la voie libre pour se présenter en novembre.
Sébastien Pahou en direct de Washington, les États-Unis, où la vice-présidente Kamala Harris reçoit ce soir Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien et grand rival politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou, pour appuyer la volonté américaine d'aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Vers un procès pour Pierre Palmade.
L'acteur sous l'emprise de stupéfiants avait percuté une voiture en arrivant en face de lui il y a un an sur une route départementale de Seine-et-Marne, blessant grièvement ses occupants, un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte. Elle avait perdu son bébé. Bonsoir Charlotte Pierret.
Bonsoir.
Le parquet requiert donc un procès et retient la notion d'homicide involontaire.
Oui, et rappelez-vous, c'est une des questions juridiques qui a émergé dès les tout premiers jours après le drame et cette césarienne déclenchée en urgence à laquelle le fœtus n'a pas survécu. Très vite, il a donc été question de savoir si le bébé porté par cette passagère de 27 ans était né vivant. Une expertise médicale a répondu que non et le débat aurait pu s'arrêter là. Car la jurisprudence de la Cour de cassation est assez claire et ce principe même qui protège le droit à l'avortement, par exemple, empêche la qualification d'homicide pour le fœtus mort avant l'accouchement. Mais l'expertise effectuée indique également qu'à son niveau de maturité, l'enfant à naître était potentiellement viable et qu'il existe un lien de causalité directe entre l'accident et sa mort in utero. C'est donc sur ce lien direct que s'appuie le parquet de Melun pour réclamer un procès du comédien de 55 ans pour homicide involontaire, tout en laissant au tribunal la liberté, pour ne pas dire la charge, de trancher cette si délicate question au cours d'un futur procès. Alors il ne s'agit pour l'instant que de l'avis du ministère public et c'est maintenant à la juge d'instruction de décider seule de l'infraction pour laquelle Pierre Palmade sera jugé.
Et le parquet qui ne requiert un procès que pour Pierre Palmade et pas pour les deux hommes qui l'accompagnaient dans la voiture ce soir-là. Un procès où, comme rarement, témoins, parties civiles et prévenus se confondent. C'est ce qu'a d'abord dit la présidente du tribunal parisien aujourd'hui à l'ouverture du procès du déraillement d'une rame de TGV à l'essai. 11 personnes tuées ce 14 novembre 2015, dont des salariés et leurs familles invités à cet ultime test avant la mise en service. Un drame largement occulté à l'époque par les attentats djihadistes de la veille à Paris et en Seine-Saint-Denis. Douloureux souvenir, réveillé d'ailleurs aujourd'hui avec cette information qui nous arrive de Bruxelles. La police belge fait savoir qu'elle a déjoué un projet d'attentat djihadiste visant une salle de concert de la capitale. Angélique Bouin est à Bruxelles.
La salle de spectacle visée était le Botanique, situé en centre-ville de Bruxelles. Les suspects sont trois jeunes âgés de 15, 16 et 17 ans, proches des milieux islamistes radicalisés. Ils ont été interpellés hier à leur domicile. Ils vivent dans trois localités différentes et pourraient donc avoir fait connaissance via les réseaux sociaux. Aucune arme ni aucun explosif n'ont été retrouvés lors des perquisitions. Leurs ordinateurs et téléphones portables sont actuellement en cours d'analyse. Un quatrième suspect a également été interpellé hier, majeur. Celui-ci, âgé de 18 ans, il a bien été en lien avec l'un des membres du trio, mais il est soupçonné dans un autre projet d'attaque sur lequel rien n'a filtré. On ne sait pas non plus si les deux affaires sont liées. Les quatre garçons ont un point commun, une radicalisation via Internet. Les trois plus jeunes étaient par ailleurs en contact avec d'autres personnes radicalisées en Europe, en France notamment. Dans quelle mesure leur projet d'attentat dans une salle de concert était-il concret ? L'enquête devra le déterminer, mais les messages échangés étaient suffisamment inquiétants pour intervenir, expliquent les autorités. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et après le terrible accident d'hier sur la 6, le conducteur du car est mis en examen pour homicide involontaire, placé sous contrôle judiciaire. Une adolescente de 14 ans est morte dans l'accident.
La vaccination contre le papillomavirus ne prend pas.
Moins de 15% des collégiens qu'ils pouvaient se sont fait vacciner pendant la campagne du mois d'octobre. Le gouvernement en espérait au moins 30% des jeunes filles et des garçons, car cette infection qui provoque 6 400 nouveaux cas de cancer chaque année les touche aussi. Journée de sensibilisation aujourd'hui avec ce témoignage. Maxime Deschacques, tout juste 40 ans, on vient de lui diagnostiquer un cancer de la gorge causé par un papillomavirus.
Quand j'ai appris que j'avais un cancer lié au papillomavirus, j'étais le premier étonné. Je savais que ça touchait le col de l'utérus, mais je ne savais pas du tout que ça pouvait toucher les garçons. Et j'étais le premier surpris en me disant « Ok, je suis informé, je m'intéresse à l'actualité en général. » Et je me suis dit « Mais comment j'ai pu passer à côté ?» Et j'étais vraiment le premier premier surpris. Ouais. Je suis un grand sportif, je ne fume pas, je ne bois quasi pas d'alcool. Donc quand on m'a dit que j'avais un cancer, je me suis dit, c'est un cauchemar vraiment. Bon, j'ai eu des périodes difficiles, hein. C'est normal. Hein. On m'a enlevé un ganglion qui faisait 4 cm et demi. On m'a fait une ablation de l'amygdale gauche. Je vais subir 33 séances de radiothérapie et 3 séances de chimio à côté en plus. Je me dis qu'aujourd'hui, on devrait avoir plus de campagnes aussi de prévention liées au papillomavirus. Je pense qu'il faut mettre les moyens. Si j'avais su, si j'avais été surtout informé, je me serais fait vacciner ouais, pour éventuellement éviter tout ça. Ouais.
Un témoignage recueilli par Manon Mellard, trouvé en vidéo sur les réseaux sociaux de France Inter. Encore un rebondissement dans le dossier casino. Le CSE du groupe, le comité social et économique, fait appel du jugement autorisant le plan de sauvetage du distributeur en difficulté. Les syndicats craignent des milliers de suppressions de postes. Et l'on en vient à la question de la mixité scolaire dans les grandes villes. L'Académie de Paris fait le bilan d'Affelnet 3 ans après la mise en place de cette plateforme qui change les règles d'affectation en lycée pour lutter contre la ségrégation scolaire notamment. Bonsoir Mathilde Dehémy.
Bonsoir Hélène.
Eh bien on progresse.
Oui, le niveau devient plus homogène mais avec encore bien sûr des disparités. Il y a moins de ségrégation scolaire à Paris, 5 fois plus que la moyenne en 2020, 3 fois plus désormais. Une partie des familles maîtrise mieux les règles tout simplement et joue le jeu de la sectorisation quand d'autres préfèrent toujours aller dans le privé. Le privé qui devrait même dépasser dans 10 ans le public, non pas parce qu'il attire plus, mais il se maintient alors que le public ferme des classes, baisse démographique oblige, 30% de naissances en moins à Paris. Et c'est un réel problème pour l'auteur de ce bilan, Julien Grenet du CNRS.
L'enseignement privé est parfaitement libre de recruter qui il veut. Il n'a pas à prendre sa part d'élèves défavorisés, quand bien même tout le monde contribue à l'enseignement privé par ses impôts. Je rappelle que l'enseignement privé est financé à hauteur de 76% par l'État et les collectivités locales. Et donc le privé offre aux familles qui le souhaitent la possibilité d'un évitement en fait, de collèges publics qui, eux, ne peuvent pas refuser d'élèves, ils doivent prendre tout le monde.
Il faut donc fermer, si nécessaire, des classes dans le privé, dit Julien Grenet, et jouer sur les dotations et les effectifs. C'est en cours, répond Valérie Baglin-Legoff, directrice de l'Académie de Paris.
Le réseau public pour la rentrée prochaine rend 250 emplois, le réseau privé en rend 50. Si on a moins d'élèves, on a des structures moins nombreuses pour accueillir ces mêmes élèves. Donc voilà, c'est important que la contrainte pèse sur l'un comme sur l'autre.
Il faudra aussi convaincre des parents qui dénoncent encore des critères iniques pour attribuer les meilleurs lycées dans un secteur.
Explication signée Mathilde Dehémy.
Et à 19h, presque 18, voici donc l'affiche officielle des Jeux Olympiques.
Oui, bon, en radio, c'est pas facile. Comme vous dites. Voir sur le site franceinter.fr. Et puis, vous allez quand même nous la décrire, Guillaume Batin, parce qu'il y a beaucoup de choses dessus.
Nous sommes dans un monde minutieux, coloré et extrêmement détaillé. Ce dessin a demandé 2000 heures de travail à la main via un stylet sur ordinateur à Hugo Gattoni, son auteur. Le minuscule côtoie le très grand, ça vous oblige à casser vos repères. Dans sa partie centrale, il y a une arène sur laquelle circule le métro aérien, avec des arrêts aux monuments les plus symboliques de Paris, comme le Trocadéro ou les Invalides. Au centre, une drôle d'idée, la Tour Eiffel, sur laquelle est posé le Stade de France. Des milliers de personnages sont en action un peu partout, symbolisant les disciplines olympiques et paralympiques. À l'extérieur de cette arène parisienne, on aperçoit les autres sites. En haut à gauche, la marina du port de Marseille, avec ses épreuves de voile, la vague tahitienne de Théa Oupeau pour le surf. Et puis un écho au berceau du paralympisme avec la ville anglaise de Stoke-Mandeville en haut à droite. C'est riche en références et en symbolique, car l'idée est d'en faire un objet à colorier pour les plus petits et à être étudié en classe par les professeurs et leurs élèves.
Voilà une très bonne idée. Merci Guillaume Batin. Et l'on termine avec ce détour par Antibes, dans cette école justement, qui porte désormais le nom de Guillaume Musso, l'auteur aux 34 millions de livres vendus à travers le monde. C'est une première en France pour honorer l'enfant du pays et c'est un reportage de Fabien Fourel.
Accueilli comme une rockstar, sous les applaudissements des enfants, Chana, 8 ans, attendait Musso impatiemment.
Ça me fait vraiment plaisir de le rencontrer. Moi, ma vie, c'est comme si dans ma vie, il n'y avait que des écritures dans ma tête. Je voudrais juste lire, quoi.
La directrice de l'école dévoile la plaque.
Cette école portera désormais le nom de l'écrivain le plus lu en France. Qui plus est, un écrivain vivant. Nos élèves ont bien plus l'habitude d'étudier des auteurs qui ne sont plus de ce monde.
Honneur qui m'est fait d'avoir cette école à mon nom a une valeur inestimable, bien plus grande que n'importe quel prix littéraire.
Avec son école Musso, espère donner le goût de lire, peut-être aussi d'écrire à ses enfants.
Il y a à peu près simplement 25% d'une classe d'âge au collège qui lit des livres hors cadre scolaire.
Pour cela, il faut divertir le public, assume Guillaume Musso, citant Pascal. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère.
Le divertissement peut être intelligent. Moi, j'écris toujours mes romans à un double niveau de lecture. Un premier niveau qui est le plaisir de tourner les pages, plaisir du suspense, et un deuxième niveau qui est de traiter de thèmes graves, mais sur un mode ludique.
Le maître assumé, donc, du roman de gare a désormais une école à son nom, située pour l'anecdote, juste en face de la gare.
Reportage Fabien Fourel, France Bleu Azur.
Et merci beaucoup Hélène Philly. Dans un instant, c'est le téléphone sonne, les amis, on est ensemble après ce moment historique, donc, d'inscription de la liberté à l'avortement dans la Constitution. Nous, on va se demander ce qui se passe après, le jour d'après, quels sont les combats qui restent à mener aujourd'hui et qu'il faut continuer à mener sans se cacher derrière la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Élodie Calac, le temps perturbé se décale vers l'est.
Oui, les pluies actuellement sur l'ouest glissent vers l'Occitanie, le massif central, la région parisienne et les Hauts-de-France ce soir et cette nuit. Elles s'attarderont demain matin le long des frontières du nord et sur le flanc est. Ailleurs, on aura un ciel changeant demain avec du vent, des averses plus nombreuses sur l'ouest, en particulier sur le sud-ouest où elles seront parfois soutenues, accompagnées d'un orage et de grésils. Sur la Normandie, là aussi un orage possible. Ça n'empêchera pas quelques éclaircies. Alors encore discrètes le matin, mais bien appréciables l'après-midi, notamment du côté de la Bretagne. Sur les massifs, les averses se feront sous forme de neige. Attention toujours au risque d'avalanche. Il y aura de belles éclaircies autour de la Méditerranée avec du vent, à peine une petite averse, et sur la Corse beaucoup de soleil.
Et pour les températures, pas beaucoup de changements?
Non, le matin ça monte quand même, hein, avec 2 à 7 degrés le plus souvent, jusqu'à 10 autour de la Méditerranée. Et puis l'après-midi, 8 degrés attendus à Rouen, 10 à Lille, Paris, Bourges, 11 à Strasbourg, Rennes, La Rochelle, Lyon et Montauban, 15 degrés du côté de Marseille et 17 à Bastia.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.